Père François Marot, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, très heureux d'être avec vous.
Voilà, Père, on vous retrouve, c'est pour une nouvelle émission. Vous intervenez donc sur l'antenne de Radio Maria France pour cette émission sur la liturgie, émission mensuelle. On va vous retrouver tout au long de cette année 2020-2021. Alors, Père, peut-être avant d'attaquer le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, avec plaisir. Voilà, donc je m'appelle le Père François Marot, je suis prêtre, curé de paroisse, actuellement dans la vallée de l'Ubaye. Voilà, il s'agit du diocèse de Digne ou le département des Alpes de Haute-Provence. Alors, je suis dans la partie montagne de ce très beau diocèse, dans la vallée de Barcelonnette, voilà, où je suis ici depuis 14 ans et j'entame ma 15e année. Voilà, donc je suis dans une équipe avec des prêtres religieux, trinitaires. Je suis avec un autre prêtre aussi, deux diacres, une communauté religieuse aussi féminine, dans cette très belle vallée où il y a à peu près 7000 habitants habituels et on multiplie largement par 10 l'été avec les grandes transhumances, si j'ose dire, touristiques. Voilà, le grand saint de notre vallée connu, répertorié, c'est Saint Jean de Mata. D'ailleurs, je suis dans le couvent qui lui est dédié, Saint Jean de Mata, qui est contemporain de François d'Assise, qui a fondé un ordre qui s'appelle les Trinitaires pour le rachat des captifs. Et cet ordre est présent aujourd'hui dans le monde entier. La vallée de l'Ubaye est connue donc pour cela, la beauté, la splendeur du cadre. Il y a des splendides montagnes, c'est une très belle vallée. Des montagnes qui culminent à 3005, avec des tas de choses à faire, autant l'été que l'hiver. Elle est très connue aussi pour ses liens avec le Mexique, puisque je crois que c'est la paroisse la plus mexicaine de France, puisqu'il y a eu une grande, grande, fin 19e et début 20e, une grande émigration de nos jeunes ici qui sont allés au Mexique et ont créé des tas de liens qui existent encore d'ailleurs. Voilà. Autrement, personnellement, je suis assez sportif, je profite du ski, du VTT, je suis dans ce qu'on appelle le Pélé VTT, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu cette année à cause du Covid. On fait des scans de ski spi, et voilà, donc j'ai fait les JMJ, Thésée, et voilà, en gros. Je termine en disant que je suis très très heureux d'être sur Radio Maria, parce que je crois que c'est un don de Dieu, comme je crois un cardinal africain l'a dit. Je suis très heureux de vous adresser cette parole sur la liturgie, en sachant que je ne suis pas un spécialiste, je le précise. Donc mon propos est le suivant, ce serait en lien avec mon expérience de pasteur en paroisse depuis 39 ans quand même, je puisse... À partir des grands textes du magistère, de certaines encycliques, je commencerai aujourd'hui par la Constitution sur la liturgie de Vatican II, dont je vais faire pour vous un petit résumé. Je dégagerai les points essentiels de cette Constitution qui ont inspiré ma vie liturgique, et je crois la vie liturgique de tout le monde, puisque le Concile nous a donné ici un texte magnifique qui a été monnayé depuis bientôt 50 ans. Voilà, j'essaierai de faire un petit commentaire au fur et à mesure, à la lumière de mon expérience toute simple de prêtre de paroisse, d'aumônier de jeunes, etc. Voilà en gros mon propos. Alors je commencerai par... une exergue un peu paradoxale que je suis allé chercher dans l'Ancien Testament, où on voit Yahvé, Dieu, donc, qui est le même que celui du Nouveau, c'est bien sûr, mais qui s'insurge contre la liturgie. Alors, vous allez me dire, oh là là, un peu paradoxal. Vous verrez en fait que ce texte, moi, m'a beaucoup inspiré parce qu'effectivement, Dieu qui a donné la liturgie à Moïse et puis qui nous a donné la liturgie aussi, ou du moins les bases, avec Jésus, bien sûr, peut-être peut plaire ou déplaire à Dieu. Donc il y a vraiment ce que, je crois, le pape émérite Benoît XVI appelait l'esprit de la liturgie. On peut être à côté dans cet esprit, ou au contraire, pas tout à fait. Alors je lis ce texte. C'est dans Isaïe chapitre 1, verset 10. Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Le sang des taureaux et des boucs me répugne. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui donc vous a invité à fouler mes parvis? Cessez de m'apporter des offrandes inutiles. Leur fumée m'est en horreur. Je ne supporte plus fêtes et solennités. Vos pèlerinages, je les hais de toute mon âme. Et quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous d'abord. Voilà, ce texte assez péremptoire, assez, j'allais dire, presque violent. Non pas une violence, bien sûr, négative, mais pour nous réveiller. Cet exergue, à mon sens, a pour but de montrer ce qui arrive quand les justes dispositions intérieures qui donnent tout son sens et son âme à la vie liturgique, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament d'ailleurs, c'est pareil, viennent à manquer. C'est alors toute la liturgie, que pourtant il a lui-même instituée, hein, le Seigneur au travers de Moïse et le Seigneur au travers de Jésus de Nazareth, c'est donc toute la liturgie qui vient à déplaire souverainement au Seigneur. Alors, je marque-bouterai, si j'ose dire, sur ce grand principe qui a été fortement rappelé lors du dernier concile, qui est une reprise finalement de toute la tradition liturgique, qui est la suivante, c'est que la liturgie, n'est-ce pas, la loi de la prière, eh bien, elle doit être profondément l'expression de notre foi profonde, de notre ferveur, de notre dévotion, en un mot, de notre amour de Dieu et du prochain. Donc s'il n'y a pas ce lien profond entre l'expression liturgique, quelle qu'elle soit, et cette intériorité, eh bien, Dieu l'a en horreur, comme on l'a lu tout à l'heure dans Isaïe. Voilà, donc, il faut absolument que notre liturgie ne soit pas, voyez, purement extérieure, purement formaliste. Hein. Ça, c'est une évidence, mais je crois que de cette évidence, de cette clarté, il nous faut vraiment nous en éclairer. Oui, alors comme pour la liturgie dans l'Ancienne Alliance, il en sera donc de même pour la Nouvelle. Le véritable esprit de la liturgie supposera toujours cette harmonie entre les gestes extérieurs et notre intériorité spirituelle. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, désignant le baptême, qui est vraiment la première liturgie, hein, dit ceci, « Le baptême qui nous sauve n'est pas la purification d'une souillure charnelle, donc extérieure, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience vis-à-vis de la résurrection de Jésus-Christ qui est passé au ciel. » Alors c'est très beau de voir comment l'apôtre Pierre reprend, si vous voulez, ce thème de l'Ancien Testament, qui est pérenne. Le baptême, ce n'est pas du formalisme, ce n'est pas parce qu'on aurait été inscrit sur un registre, aspergé d'un peu d'eau, que cela suffirait à faire de nous des chrétiens. Alors, moi, malheureusement, dans mon expérience de curé, j'entends souvent « Oh, mon père, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, je me suis marié à l'église, et puis maintenant, bon, bah, ça me suffit. » Il y a une espèce de religion purement formaliste. Alors j'aime à dire que le rituel doit toujours impliquer le spirituel, voilà. Pas que le rituel, mais le spirituel. Une autre parabole, cette fois-ci bien sûr de Jésus, du Nouveau Testament, nous invite à reprendre ce thème si essentiel que, encore une fois, je voudrais être un peu le fil rouge d'une partie de mon discours sur la liturgie. C'est la parabole de la prière du pharisien et du publicain. On se souvient, Jésus dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Alors deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Alors le pharisien, la tête haute, priait ainsi. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain là derrière. Moi, je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Je vous le dis, dit Jésus, ce dernier revint chez lui justifié, l'autre non. Alors, ça ne peut pas être plus explicite. Vous voyez cette liturgie un petit peu personnelle ici, mais enfin on peut aussi la transposer à tous les sacrements, à toute la liturgie. Là, on arrive à la messe et on commence à bavarder, on commence à regarder, critiquer le chapeau. Ils sont plus tellement fréquents les chapeaux maintenant. Mais voyez ce que je veux dire. Donc, une espèce de participation superficielle. Tandis que le Concile Vatican II insiste beaucoup, c'est vraiment un leitmotiv, sur la participation active. Participation active qui veut dire vraiment que nous sommes partie prenante, que nous ne sommes pas spectateurs, comme ce pharisien qui est en train de se regarder lui-même et critiquer très méchamment, très durement le publicain. Qui pourtant, lui, tout hérétique qu'il était, hein, car le publicain dans le temps de Jésus était des gens pas très fréquentables, hein, qui avaient un peu transigé avec la foi de Moïse, la foi d'Israël, et pourtant il était dans l'esprit de la liturgie, voyez, parce qu'il avait cette conscience profonde de son péché, de son indignité. Voyez, donc quand on commence la messe, nous commençons exactement comme le publicain. Dieu, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Et que cette première prière de la liturgie qui, vienne vraiment du fond du cœur et nous pourrons nous dire que nous revenons chez nous justifiés. Voilà. Un autre grand principe qui est, que l'on retrouve aussi dans l'Épître aux Corinthiens, c'est non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Voyez, ce pharisien qui vient se faire une espèce d'auto-célébration, vous voyez, voilà, je fais ci, je fais ça, je donne au denier de l'Église, je suis impliqué dans tel mouvement, etc. Mais ce n'est pas le moment, c'est très beau tout ça, mais ce n'est pas le moment. Vous voyez, c'est liturgie d'auto-proclamation, c'est quelque chose qui est contraire à l'esprit liturgique. Nous venons pour proclamer Jésus-Christ Seigneur. Voilà un grand, grand principe de la vie liturgique. Nous venons à la messe pour rencontrer Jésus, pour recevoir de lui sa bonté, sa miséricorde, pour voir de nos yeux son corps sacré, pour voir de nos yeux aussi le sang rédempteur couler sur l'autel et en être inondé. Voilà, revenons à Jésus-Christ. C'est l'esprit même de toute liturgie. Et toutes les prières de la liturgie, d'ailleurs, reposent sur cette présence de Jésus dans sa parole, dans le ministre ordonné, dans l'assemblée, dans le sacrement et au plus haut point, bien sûr, dans son sacrifice, le saint sacrifice de la messe, où il est présent avec tout ce qu'il a conquis pour nous de haute lutte sur le calvaire. Oui, nous proclamons Jésus-Christ dans la liturgie. Alors, une première approche de cette liturgie, qui est très importante, hein, elle restera toujours la principale et incontournable interface entre les gens et la religion, et la religion chrétienne, la nôtre en l'occurrence. Ce que les gens voient en premier, y compris les gens qui, comme dit le pape François, sont un peu à la périphérie, hein, ceux qui viennent simplement pour des obsèques, pour un mariage, pour une première communion, ou que sais-je, hein, c'est ce qu'ils voient en premier. Hein. Pas simplement ceux-là, mais toute personne. C'est l'interface par excellence, c'est la liturgie. Et par-dessus tout, la messe. La liturgie, c'est donc l'expression et la manifestation de la foi et de la foi de l'Église aux autres. On peut dire qu'il y a une dimension d'évangélisation puissante dans la liturgie. Je crois que beaucoup de gens peuvent être soit éloignés, si on n'est pas vraiment dans l'esprit de la liturgie, une liturgie bavarde, une liturgie d'auto-célébration, une liturgie où il n'y a pas de silence, sur lequel le cardinal, silence sacré, sur lequel le cardinal Sarah a tellement et merveilleusement insisté dans ce merveilleux livre, sur le silence, n'est-ce pas ? Eh bien, autant une liturgie bâclée, une liturgie bavarde, une liturgie qui n'est pas dans l'esprit, une liturgie qui n'est pas centrée sur le Christ, sur la prière, sur le désir de conversion, peut éloigner, autant une belle scène simple aussi. Il ne s'agit pas de... On n'est pas tous les jours à la chapelle Sixtine, on n'a pas toujours cette chorale merveilleuse, on n'a pas toujours un organiste merveilleux ou une organiste, etc. Mais un chant beau et simplement chanté. Voilà. Alors, autant une belle liturgie bien préparée, comme on va essayer de la redéfinir ensemble, peut devenir une source d'attirance, n'est-ce pas ? D'attirance. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Je risque cette application de la parole du Seigneur en lien avec le calvaire à la liturgie. Et en particulier, au plus haut point, à la liturgie eucharistique. Car le pape Jean-Paul II a dit merveilleusement, et c'est repris par le pape François, qu'est-ce que c'est que d'aller à la messe, sinon d'aller au calvaire ? Et là, le spectacle s'arrête, dit le pape François. Fini les bavardages, fini les commentaires, fini, oh, encore moins, disait-il, les appareils photos. J'ai même vu des prêtres, dit-il, prendre des photos pendant la messe. Oh là là, voyez. Donc là, on est vraiment dans le spectacle, on est dans la, voyez, l'extériorité, pardonnez-moi, l'invasion des médias, de la télévision, etc., qui peut ruiner finalement la liturgie. Alors je ne dis pas que la messe à la télé, c'est pas bien, non, loin de moi cette pensée, vous voyez, mais attention. Vous voyez, moi j'ai entendu des gens, à la suite de nos 3 mois sans messe, me dire « Oh ben finalement, la messe à la télé, c'est mieux, c'est plus confortable. » Vous voyez, attention. Non, non. Il faut garder cet esprit de la liturgie qui est une rencontre présentielle de la Sainte Présence. Alors, un essai de définition. Alors, tantôt c'est moi qui parle, mais pardonnez-moi, je ne vais pas dire à chaque fois « le Concile dit que » et « le Père François dit que ». J'ai essayé de faire une synthèse en respectant le mieux l'esprit du texte conciliaire. Alors, la liturgie, à mon sens, est essentiellement liée au mystère du Christ. Elle sera donc, comme lui, à la fois humaine, profondément humaine, et divine. S'il manque l'un des deux aspects, eh bien, c'est perdu. Si c'est simplement le rassemblement des chrétiens qui se réchauffent, qui partagent leur foi, etc., c'est déjà pas mal, non, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit divine. Nos frères orientaux parlent de la divine liturgie. La divine liturgie. Il faut, en dernière analyse, voyez, que notre liturgie soit une rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une messe réussie ? Hein ? C'est pas simplement une messe où le prêtre a bien prêché, c'est tant mieux, où les chants étaient magnifiques, ou moins magnifiques, ou que sais-je encore, où on s'est auto-célébré, on a présenté tous les mouvements de l'Église, où on a presque bavardé religieusement. Non. Une messe réussie, c'est quand à la fin de la messe, eh bien, on pourra dire « j'ai prié, j'ai rencontré le Seigneur ». Cette messe m'a permis de communier au Seigneur. Pas simplement communion objective au corps du Christ, vous voyez, mais communion intérieure, profonde. L'humain et le divin doivent être présents. Le visible de la liturgie doit toujours être ordonné à l'invisible. L'humain au divin, l'action à la contemplation et le temps présent à la cité du ciel. Voyez, la liturgie montre l'Église comme un signal levé devant les nations sous lequel les enfants de Dieu se rassemblent dans l'unité jusqu'à être un jour rassemblés en une seule bergerie sous un seul pasteur. Vous voyez, cette phrase est très belle, elle est prise de, justement du texte sur le Concile. Vous voyez, donc c'est le Christ qui réalise en lui-même la plénitude du culte divin. C'est le Christ qui réalise en lui-même la plénitude du culte divin, avec bien sûr l'Esprit Saint et le Père. D'ailleurs, toute la liturgie est trinitaire, on le verra. C'est très intéressant lorsqu'on écoute attentivement, lorsqu'on participe en écoutant les paroles du prêtre ou en lisant dans son missel, de voir à quel point la liturgie est toujours trinitaire. Le Père qui envoie le Christ, lequel envoie avec le Père l'Esprit Saint sur l'Assemblée. Alors l'humanité du Christ dans l'unité de la personne du Verbe éternel, car Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et qui est l'instrument de notre salut, eh bien c'est lui, ce Christ, qui réalise la plénitude du culte divin par lequel, par ce culte divin, il entre chez nous. Alors, la liturgie, c'est donc l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, à laquelle participent d'une façon toute particulière les prêtres, n'est-ce pas, au service de la communauté, d'une communauté sacerdotale, ce qu'on appelle le sacerdoce commun, qui fait que toute l'Assemblée participera d'autant plus au mystère divin de la sainte liturgie, de la messe en particulier, ou baptême, ou n'est-ce pas ? Si le prêtre en est le premier témoin. Voyez, j'ose dire que la qualité de la liturgie dépend en grande partie, oui, j'ose le dire, de la qualité voyez, de la célébration, de la façon dont le prêtre célèbre la messe. Pas forcément avec un super sermon ou que sais-je encore, il essaiera de donner le maximum. Hein. Pensons un peu au saint curé d'Ars, qui avait beaucoup de mal à prêcher, mais dont les messes étaient enthousiasmantes. Pourquoi ? Parce que les gens voyaient le Christ au travers de son humble serviteur, comme le padre Pio, qui ne prêchait pratiquement pas, surtout à la fin de sa vie. Au cours des messes du padre Pio, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de chant, etc. Mais on se pressait depuis la veille pour être sûr d'avoir une place tout près de l'autel pour pouvoir voir Jésus officiant au travers du sacerdoce du saint padre Pio. Alors, je continue notre réflexion. J'ose dire aussi contemplation, car il faudrait justement, quand on parle de la liturgie, en parler d'une façon presque contemplative, vous voyez, c'est ce que je vous disais en début de mon discours, que je ne souhaitais pas présenter un sujet de façon docte et comme un expert, mais vraiment comme un témoin. Voilà. Alors les premiers témoins, ce sont les apôtres. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont été envoyés non seulement pour prêcher, hein, pour parler de Jésus, bien sûr, c'est essentiel, cette prédication, mais pour faire, pour réaliser l'œuvre du salut annoncé. Et donc la liturgie, c'est très curieux, mais c'est d'abord un faire, qui est préparé, bien évidemment, par ce qu'on appelle l'initiation. Jésus dit bien « faites ceci ». Très très important de voir comment il s'agit vraiment d'une praxis, hein, comment on fait ce que c'est une action sacrée, investi par la puissance de Dieu. Hein, pensons un peu cette humble personne qu'est le prêtre, hein, sans le mettre sur un piédestal. En tant qu'être humain, il est pauvre, il est limité, c'est un humble, comme disait saint Augustin, je suis d'abord baptisé avec vous, je suis prêtre et évêque pour vous. Bien, pensons un petit peu à ce que fait un humble prêtre, ce que je fais moi chaque jour, prendre un petit morceau de pain et prononcer les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, enfin, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Voilà. Cette action sacrée ce petit peu d'eau qui coule sur le front d'un enfant ou d'un adulte. À chaque fois, moi, je me souviens, j'ai presque la tentation de vouloir retenir de l'instant, vous voyez, en disant, mais j'ai pas vu ce qui se passait, mais c'est tant mieux, vous voyez, c'est tant mieux. Il ne faut pas vouloir retenir humainement ce passage de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il est si important d'être, oui, scrupuleux, au bon sens du terme, de garder scrupuleusement la Sainte Liturgie telle qu'elle nous est offerte par l'Église et non pas être créatif, comme on disait il fut un temps, inventer un peu n'importe quoi. Ça peut être vraiment un piège et ça peut aller jusqu'à l'invalidité. Tout récemment, vous savez qu'un prêtre, j'ai vu ça sur Internet, qu'un prêtre, on s'est rendu compte qu'il n'était pas baptisé parce que son baptême avait été prononcé de cette façon. « Nous te baptisons ». Ben non, ce n'est pas « nous te baptisons », c'est « je te baptise ». Et ce n'est pas anecdotique, parce que le « je », c'est Jésus. Jésus est là-bas. « Je », Jésus. Vous voyez, c'est vraiment l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la communauté qui baptise. Et alors, ce brave prêtre a dû, en une semaine, je crois, être rebaptisé, faire sa communion. Bon, vous voyez, ce n'est pas anecdotique, mais ça nous montre à quel point c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Les apôtres, en effet, l'œuvre des apôtres est magnifiquement résumée dans les Actes des apôtres, au chapitre 2, verset 41. On connaît tous cette belle icône de l'Église naissante. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle et à la fraction du pain. Et tout est dit, l'enseignement qui prépare cette première partie de la messe ou de tout sacrement, qu'on appelle la liturgie de la parole, qui donne sens aux gestes, aux paroles sacrées, bien sûr, ce n'est pas de la magie. Communion fraternelle parce que la liturgie est toujours une affaire communautaire. Même quand un prêtre célèbre tout seul, il a avec lui l'Église du ciel, du purgatoire, il a toute l'Église de la terre dans laquelle il peut, à laquelle il doit être uni. On l'a vécu, nous, les prêtres, pendant le confinement. Et la fraction du pain qui culmine, qui est le sommet. Vous connaissez cette merveilleuse définition donnée par le Concile lui-même, repris du Concile de Trente, et on peut dire de toute la foi de l'Église, qu'est-ce que c'est que la messe, ou tous les sacrements, la messe d'abord, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. La source et le sommet de la vie chrétienne. Le sommet. Et j'en veux pour preuve ce passage de la rencontre du ressuscité de Pâques avec ces fameux disciples découragés, les fameux disciples d'Emmaüs, qui s'éloignaient de Jérusalem, très tristes. Nous avions mis notre espérance en ce rabbin merveilleux qui nous avait enthousiasmés par ses discours, par ses miracles, etc. Nous avions mis tout notre espoir en lui. Vous voyez, c'est fini. Et on s'en va. Et vous savez qu'il rencontre, bien sûr, cet étrange un personnage qui chemine avec eux, qui ne reconnaissent pas, qui refait tout le parcours en commençant par l'Ancien Testament, les psaumes et tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Ensuite, qui a une fraternité chaleureuse avec eux, très important, cette chaleur aussi dans notre façon de célébrer, pas être sec, froid, distant et surtout pas en colère. Cette chaleur qui a suscité le désir des disciples de l'inviter à rester. Reste avec nous. Vous voyez, une liturgie attractive, une liturgie pas rubriciste, vous voyez, on suit vraiment les rubriques, mais de façon sèche, sans chaleur. Ça, on éloigne les gens. Et enfin, ils restent avec eux. Et de façon ultime, c'est la liturgie de l'Eucharistie qui va emporter la mise. Ils reconnurent à la fraction du pain. Voilà, s'agissait-il d'une messe ou pas? Je crois qu'on peut dire oui, la fraction du pain dans la tradition, le mot lui-même, hein, le dit, c'est, ils le reconnurent à la fraction du pain, ils le reconnurent à cette fraction du pain qui est le geste liturgique que Jésus a opéré à la Sainte Cène et que, voilà, dont les apôtres ont certainement dû parler à tous les amis, à tous les disciples. Et c'est cette fraction du pain réalisée sous leurs yeux, en présentiel, vous voyez, pas sur YouTube, pas sur simplement pour la messe sur Antenne 2, etc. Bon, encore une fois, quand quelqu'un est malade, c'est merveilleux. Hein. Moi, j'ai connu des malades qui ne pouvaient pas se... Mais quand même, nous venions leur apporter la communion. Nous venions, et peut-être même quelquefois, quand on peut pas faire, quand ces personnes sont très ferventes, rien ne vaut une messe célébrée au chevet du malade, quand on peut le faire. Et la communion, si possible apportée par le prêtre. Je ne dis pas que les laïcs ne doivent pas le faire, mais il ne faut pas dissocier la communion de la messe, la communion du prêtre, d'autant que le prêtre souvent peut proposer aux malades le sacrement de réconciliation. Oui, faisons attention à une liturgie en éclat, vous voyez, d'un côté la communion, et puis plus de relations avec le prêtre parce que soi-disant il n'y en a pas assez, et que les laïcs doivent absolument faire leur rôle, ben oui, c'est très bien, mais ils doivent être dans leur rôle, pas dans le rôle du prêtre. Ils doivent appeler le prêtre pour que le prêtre, justement, puisse faire le lien entre la Sainte Messe, dont il est le ministre ordonné, pour laquelle il est ordonné, avec, justement, la communauté, et en particulier avec nos malades. Voilà, là il y a une petite déviance hein, que je pointe ici au passage. La présence du Christ dans la liturgie, oui, c'est toujours présentiel, hein. Vous savez que ce mot est nouveau, enfin moi je ne sais pas s'il est déjà dans le dictionnaire, mais en tout cas on l'emploie beaucoup depuis le Covid, depuis les visioconférences, etc., y compris dans l'Église. Rien ne vaut le présentiel, la présence. La présence réelle. La présence réelle du Christ, notre présence réelle aussi. On ne peut pas donner la communion par Internet. On ne peut pas donner, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, est-ce que je peux me confesser par téléphone, par Internet? Non, bien sûr que non. Vous vous rendez compte ce que ça pourrait supposer au niveau de la discrétion, au niveau du caractère sacré, sacral du secret de la confession, ça pourrait être abominable. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que Internet est pratiquement sur la place publique et tous les modules les plus sophistiqués peuvent être très facilement court-circuités. Et de toute façon, non, ce n'est pas une présence réelle. Le monde a besoin de présence réelle, de la présence du Christ. Je serai avec vous tous les jours, a dit Jésus à ses disciples et à nous, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Il est là, comme disait si souvent le saint curé d'Ars à ses paroissiens. Il est là, en montrant le tabernacle. Promesse tenue, chers amis, par-dessus tout dans la liturgie. Il est présent, nous rappelle le Concile, dans le prêtre célébrant, qui célèbre in persona Christi. Alors là, c'est une expression qui était importante de redire en latin, parce que il n'est pas l'ambassadeur du Christ, vous voyez, à ce moment-là. Il est le Christ. La personne du prêtre, au moment de la célébration de la Sainte Liturgie, c'est le Christ. Vous voyez, une façon toute particulière. Le cardinal Sarah, tout récemment, disait non, une personne, si on traduisait par exemple dans la personne du Christ en français, ça peut être un peu ambigu, comme s'il représentait le Christ. Non, il ne représente pas le Christ, il est le Christ qui dit « Je te baptise, je te pardonne, voici, n'est-ce pas, mon corps et mon sang, c'est je ». La présence réelle. C'est le même, nous dit le Concile Vatican II, reprenant tous les conciles précédents. C'est le même qui offre maintenant, par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Vous voyez, c'est le Christ qui est dans le prêtre, hein, pour prendre une image un peu. Vous voyez, nos mots sont un peu impuissants, hein, comme quand on dit aux enfants que Jésus il est dans l'hostie. Bon, ben, il n'est pas dans l'hostie comme il est dans un réceptacle, bien sûr, hein, comme il est dans le tabernacle. Vous voyez, mais nos mots sont un peu déficients là. Hein, mais c'est Jésus qui est à l'autel au moment de la messe. Voilà, c'est Jésus qui est à l'autel. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. C'est le même qui est à l'autel, qui donne tout l'amour, n'est-ce pas, qu'il a donné sur la croix, sauf que désormais son corps ne saigne plus de façon physique, mais il saigne de façon mystique, on va dire. Hein. C'est bien pourquoi il y a le corps et le sang qui sont toujours présents séparément, pour bien nous rappeler que c'est la passion de Jésus qui nous est offerte, la même qui a été offerte sur le Golgotha, qui nous est offerte sur la croix. Et là, on est au sommet de l'action divine, de l'action de « faites ceci en mémoire de moi ». Il est présent dans les saintes espèces, bien sûr, au plus haut point. Ceci est mon corps. À partir de ce moment-là, comme le dit merveilleusement le pape François, quelle est la substance du pain consacré? C'est l'amour. C'est merveilleux. J'ai trouvé ça merveilleux. Vous voyez, le pape François a des expressions absolument sublimes, hein, très simples. C'est plus du pain, c'est de l'amour. Merveilleux. On ne peut pas mieux dire. Vous voyez? Alors, on parle de la transsubstantiation. C'est un mot un petit peu plus difficile, surtout à monnayer aujourd'hui, surtout avec des enfants. Mais de dire que c'est plus du pain, puisque Jésus l'a dit, hein, et que c'est de l'amour, que c'est l'amour du Christ, le même amour qu'il avait sur la croix, bah, quand même, ça suffit à notre adoration. Ça devrait suffire à notre contemplation. Ça devrait suffire à notre communion. Ça devrait suffire à notre désir d'amour. Il est présent dans la communauté. Cette omniprésence du Christ s'appelle le corps mystique. Hein. C'est ce corps tout entier, Jésus et son prêtre, toute la communauté, n'est-ce pas, rassemblée autour de son pasteur, etc., qui célèbre le culte liturgique intégral. Rien n'est plus beau qu'une messe total, si j'ose dire, voyez, avec le pasteur, les pasteurs, avec bon, l'évêque, c'est encore plus beau, le pape, magnifique, et puis toute toute sa communauté. C'est l'acte public le plus beau de l'Église tout entière, et non pas un acte privé, hein, même si parfois le prêtre a tout à fait raison de célébrer quand il ne peut pas faire autrement, ou qu'il n'y a pas d'assemblée, c'est très très beau aussi de célébrer une messe dite privée. Elle n'est jamais privée, elle est en présence du ciel, elle est offerte pour le monde entier. Hein. Même quand un prêtre célèbre seul la messe, c'est tout le corps de l'Église qui est impliqué. Voilà, me semble-t-il, cette vision, vous voyez, de cette liturgie au sommet de ce culte intégral, avec le Seigneur en son centre, et qui ensuite va se communiquer par son amour, car, encore une fois, je répète cette merveilleuse définition de la présence réelle désormais du Christ dans l'hostie et dans le vin consacré. Quelle est la substance? C'est l'amour. Merci au pape François de nous avoir donné cette extraordinaire définition, finalement, de la transsubstantiation, ce mot qui est toujours valable, qui est très important même pour la catéchèse, pour la théologie, car ça nous rappelle que vraiment, il n'y a plus de pain, c'est la substance du corps du Christ, c'est Dieu et vrai homme, qui est présent pour nous, au milieu de nous. Alors, je crois que cette dernière contemplation peut nous unir, nous réunir autour de ce grand mystère, source et sommet de notre vie chrétienne. Je vous invite, chers amis, à terminer notre contemplation sur cette belle vision jusqu'à notre prochaine messe. La mienne sera célébrée dans 1 heure et demie. Donc, je me souviendrai de vous, chers auditeurs, et je me souviendrai de ce que j'ai essayé de vous dire, je crois, de plus beau. Hein, c'est cette parole du pape François, la messe, la substance de la messe, la substance de l'hostie et du Saint-Calice, c'est l'amour.
Père François Marot, merci infiniment pour cette première émission sur la liturgie.
Eh bien, merci à vous et à très bientôt.
Et on se retrouve le mois prochain.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Père François.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.